Nous allons revenir aujourd'hui à notre livre de l'Apocalypse. Et nous allons aller là où nous étions arrêtés, il y a déjà un bon moment, hein, au chapitre 19, et nous lirons les versets 11 à 21. La jeune dame qui est avec Dissandro, est-ce que je la connais? Bonjour d'abord, votre nom c'est?
Andrea.
Andrea, fait plaisir, bienvenue parmi nous. Alors... Donc, Apocalypse, chapitre 19, les versets 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert, nous dit la parole de Dieu. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois ». Seigneur des Seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ce sont des propos assez horrifiants. En même temps que ce sont des propos rassurants, dépendamment de l'angle par lequel nous les approchons. Si nous nous approchons comme des croyants, c'est une puissance de Dieu qui grandement nous rassure. Si nous sommes tenus pour lui rendre des comptes, alors qu'il n'a pas porté notre jugement, bien sûr, ce sont des propos absolument terrifiants. Lorsque j'étais petit, dans mon lac Saint-Jean-Natal, c'est devenu une phrase célèbre à Québec, mon cher papa, disait souvent, « On a toujours hâte de vieillir ». On est toujours en attente de quelque chose. On attend la prochaine paye, on attend la fin de semaine, on attend les vacances. On vit en fonction du futur. Nous ne sommes pas des existentialistes outranciers, hein? Le moment présent est important, mais on vit quand même pour ce qui s'en vient. Et il y a toute une théologie là-dedans, vous savez. Ce n'est pas sans nous rappeler les propos du docteur Samuel Johnson, qui disait « L'homme ne vit pas de plaisir en plaisir, mais d'espérance en espérance. » On vit d'espérance en espérance. Et c'est ce qui fait toute la différence entre un croyant et un incrédule. Les non-croyants ne vivent que pour le royaume de ce monde. Et c'est un monde qui n'a aucune espérance à offrir. d'où le désespoir, et d'où, n'est-ce pas, le flot de médicaments et de pilules, les torrents qui déferlent dans nos maisons pour tenter de donner des petits paradis artificiels aux gens. Job, chapitre 5, verset 7, nous dit « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » C'est une belle phrase, hein? On oublie souvent que nous sommes dans l'Église militante. Nous ne sommes pas encore dans l'Église triomphante. Souvent, dans notre évangélisation, « Dis-le à Jésus, il va t'arranger ça. » C'est un fait que Jésus arrange tout. Mais il l'arrange à sa manière. On sait que la pleine guérison, la plénitude de notre salut, on va l'avoir lors de son retour. En attendant, nous sommes encore dans l'Église militante, avec ses épreuves, avec ses contrevenus, avec ce qu'elle a d'abrasif, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de souffrances, pas toujours perceptibles de l'extérieur, mais qui gardent l'humain dans une recherche constante, et cet humain-là tente de satisfaire cette recherche-là par le confort, par le matérialisme. Et on sait que ça mène nulle part. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé le Christ, en l'absence de sa révélation, on fait du surplace. C'est un propos qu'on ne cesse de dire à notre fils constamment, « Tu fais du surplace. » Hein? C'est dire que dans le tourbillon de la vie, dans la grande parade des événements qui s'y succèdent dans nos vies, il nous faut toujours garder les regards sur le Christ. On les baisse souvent. Surtout dans l'épreuve, on regarde dans notre nombril plus souvent qu'autrement. Il faut garder les regards au bon endroit, les regards sur le Christ qui nous a rachetés. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, va comme suit. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » C'est une source de salut pour tous les hommes. Ce n'est pas le salut pour tous les hommes, mais c'est une source de salut pour tous les hommes. Elle était manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance. La voilà, cette espérance dont on parle depuis le début. Et on l'attend encore. On vit pour elle, n'est-ce pas? La bienheureuse espérance est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Si notre espérance, bien-aimé, si notre espérance ne consiste pas dans le retour concret, le retour personnel, le retour physique de Jésus-Christ, nous n'avons pas d'espérance. Et ça va de soi que ça va aussi avec notre manière de vivre, comment on se définit, en harmonie avec l'Église. Nous vivons dans une période, dans une société, je n'apprendrai rien, qui est très individualiste. Tellement de choses nous séparent les uns des autres, des choses qui, en théorie, auraient dû nous unir pourtant, mais nous séparent les uns des autres. Nos téléphones, nos téléviseurs, les médias sociaux, combinés à toutes les autres distractions et autres tentations, peuvent avoir pour effet de nous séparer les uns des autres. Le piège, c'est que notre identité peut être davantage ancrée dans ce que nous désirons plutôt que dans notre relation avec Dieu et dans notre interaction et notre relation les uns avec les autres. À titre de chrétien, j'appartiens au Christ et je suis membre de telle Église. Pardon. Et ce n'est que dans cette perspective-là que nous avons une espérance certaine. Non pas que nous avons une certaine espérance, mais que nous avons une espérance certaine. Une espérance qui ne peut tromper, qui ne peut décevoir, une espérance qui va s'accomplir dans tout ce qu'elle est. Tout ce passage que nous avons pointe vers la gloire du Christ, un Christ glorieux, un Christ juste et un Christ puissant. C'est notre texte d'aujourd'hui qui va nous faire ressortir cette réalité-là. Et c'est un bon moment, nous sommes en pleine fête de l'Action de grâce. Hein? C'est un texte qui, pour nous croyants, nous amène à rendre grâce. Il y a beaucoup de deuil, il y a beaucoup de tristesse avec tous les charognards qui viennent manger les millions d'êtres selon l'image qui nous est donnée. Mais pour nous qui sommes siens, c'est une grande espérance réalisée. Le texte se divise donc en trois sections. Si vous prenez des cours d'homélétique, vous savez comment diviser un texte, vraisemblablement. Alors, on le divise par les trois fois où l'expression « je vis » arrive dans ce texte-là. Ce sera mes trois points de cet après-midi. Premièrement, les versets 11 à 16. On voit « je vis » au verset 11, « je vis » au verset 17 et on voit « je vis » au verset 19. Premièrement, les versets 11 à 16, la gloire du roi Jésus. On doit toujours garder à l'esprit que l'Apocalypse nous présente une série de visions qui dépeint l'Église, l'âge de l'Église, le temps entre l'âge de l'Église et le jugement divin. La perspective du règne du Christ tout au long du temps de l'Évangile. La question de restreindre, d'avertir et ultimement de punir le mal nous est rapportée sous l'emblème, on l'a vu depuis le début, de sept sceaux, de sept trompettes et de sept coupes. Cependant ici, c'est un peu différent. Nous ne regardons pas par une fenêtre ou par une porte au ciel. Non, le ciel s'ouvre et on voit sortir le Messie roi sur son cheval blanc avec son armée. La section précédente nous a préparé à la vision de l'époux. Mais comme c'est souvent le cas, la parole nous surprend tout le temps, nous étonne tout le temps, et on se retrouve plutôt face à un guerrier. Alors on est loin de l'époux romantique, hein? On est face à un guerrier. Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Voilà bien une image qui ne manque pas de richesse en termes de contenu. Vous savez, dans le monde romain, les empereurs et les généraux conquérants chevauchaient des chevaux blancs. Et c'est certainement ce que Jean ici veut signifier quant au retour du Christ dans son triomphe absolu, alors qu'il y va de sept affirmations descriptives. Dans un premier temps, ce messie guerrier, ce cavalier, montant ce cheval blanc, a pour nom fidèle et véritable. Et c'est le dirigeant tant attendu. Tout au long de l'Ancien Testament, le peuple de l'Éternel, le peuple de Dieu, a attendu ce fidèle et ce véritable-là. Parce que tout ce qui est venu auparavant, tous les rois, tous ceux que le Seigneur plaçait comme dirigeants, étant en quelque sorte des préfigurations, étaient des prototypes, si on veut, de celui qui devait venir, le Christ lui-même, le roi Messie, étaient des ombres typologiques du roi Messie. Mais tous ces leaders ont manifesté leur faiblesse. On pense à Moïse, par exemple. Moïse a expérimenté des défauts de foi. On l'aime bien, Moïse, hein? Un grand bonhomme, mais il a expérimenté des défauts de foi. On sait qu'il n'a pas pu entrer dans la terre promise. On sait, entre autres choses, qu'il a frappé le rocher, hein, à plusieurs reprises, etc. La généalogie de Matthieu rapporte que David, un roi selon le cœur de Dieu, le roi par excellence, la préfiguration du Messie par excellence, a engendré Salomon. Comment? Par la femme d'un autre, par la femme d'Uri. Ce qui nous rappelle sa faiblesse. Le règne de Salomon ne manque pas de splendeur, il ne manque pas de dérapage non plus. Salomon qui démarre tellement bien avec toute cette sagesse qui lui avait été donnée, hein, selon ce qu'il avait demandé, avec toutes ces femmes qui l'ont conduit à adorer d'autres dieux. En contraste, cependant, Jésus est fidèle et véritable, et comme on vient de le chanter, il ne nous laissera jamais tomber. Deuxièmement, au verset 12, il juge et il combat avec justice. C'est dire qu'il n'y a personne qui va venir discuter ses décisions. Il n'y a personne qui va, d'une manière ou d'une autre, venir mettre en doute la justice de sa cause. Il serait impossible de réfuter l'évidente clarté de ses motifs et de ses buts. Et le verset 12 nous fournit également les trois prochaines affirmations. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça nous parle, bien sûr, de pureté. Ça nous parle du fait que strictement rien ne lui est caché. Ses yeux, comme des flammes de feu, peuvent explorer tous les recoins, tous les endroits les plus sombres, les plus intimes, les plus cachés, les plus secrets, même de notre intériorité, vous savez. Nous vivons devant ce roi auquel nous devrons tous rendre compte, bien-aimés. Il n'est aucun compartiment de nos vies qui ne lui soit accessible. Il est présent dans tous les recoins, dans tous les conciliabules gouvernementaux, dans toutes les conspirations, dans tout ce qui a cours derrière les portes closes. Hébreux chapitre 4, verset 13 nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Quatrième élément de description qui nous est donné de ce roi glorieux, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Bon, c'était comme des bandeaux, hein, ces diadèmes-là, qui témoignent de son absolue autorité. Il n'y avait aucun domaine, aucune région, aucune localité qui échappe à son règne. Il est le Seigneur de tout, comme on aime souvent dire. Et ça nous invite à réfléchir sur la direction de nos vies. Notre travail, par exemple, hein, n'est rien d'autre qu'un appel, qu'une vocation. Je suis persuadé que c'est pas toujours comme ça qu'on se lève le matin et on s'en va au travail en disant « je vais l'accomplir, ma vocation ». Ça demeure quand même une réalité. C'est quelque chose que Dieu nous donne d'accomplir et de le glorifier dans ce que nous faisons. En fait, c'est pas le patron que nous servons d'abord, mais c'est le Dieu que nous servons par le biais de cet emploi-là. Si nous nous percevons comme serviteurs et servantes du Maître, on n'aura pas besoin de prééminence, on n'aura pas besoin de prospérité, on n'aura pas besoin de position, d'applaudissement, de promotion ou de popularité. Nous servons le roi. Et ça vaut aussi pour la famille, vous savez. Quand la Bible nous dit, je sais que c'est pas très populaire de nos jours, là, ça ne l'a jamais été depuis la chute de toute manière, que la femme soit soumise à son mari comme au Seigneur. Se soumettre à son mari, c'est se soumettre au Seigneur. C'est pas commencer à contester. Oui, mais ça va contre ma conscience, mais je suis pas certain qu'il a raison. Et, à moins que ce soit clairement à l'opposé de ce que la parole enseigne, il y a un désir, il y a une obligation de soumission. Ça vaut ainsi pour les enfants. Ça vaut pour les employés avec leur patron. Ça vaut aussi pour les gens dans l'Église. C'est pas parce qu'on a lu 12 ou 15 livres que de facto on est appelé au ministère de l'enseignement. Il faut d'abord qu'il y ait une reconnaissance de la part de l'autorité. Et ça vaut pour tout ce que nous vivons. Le Facebook, les balados, tout le monde s'improvise un peu enseignant aujourd'hui avec sa page ci et sa page là. Et ça donne ce que ça donne. Il y a des bons côtés, il y en a des plus toxiques. Et le texte continue en disant qu'il avait un nom que personne ne connaît sinon lui-même. On parle bien sûr ici de la divinité du Christ, dont on ne peut connaître exhaustivement tous les aspects. Qu'est-ce qu'on dit en latin? Finitum non capax infiniti. Hein? Le fini est incapable de comprendre l'infini, comme je dis souvent. Nos bras ne sont pas assez longs pour lui faire un hug à Dieu. Hein? Il est infiniment au-delà de nous. Et le texte continue en disant qu'il avait un nom que personne ne connaît sinon lui-même. On parle bien sûr ici de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, dont on ne peut connaître exhaustivement tous les aspects, c'est ce que je viens de dire. Il est transcendant, il se révèle à nous, mais il est ultimement au-delà de notre capacité de comprendre. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Fait peut-être référence à Ésaïe. On a lu Ésaïe 63, aujourd'hui, on revient à Ésaïe 63, mais les versets 1 à 3, « Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. » En même temps aussi que ça peut très bien être le sang du Christ Jésus. Les saints sont ici vêtus de vêtements purs, des vêtements blancs purs, hein, et ici, bien sûr, leur propre justice ayant été acquise au coup du sang du Christ, et ce sang-là viendra encore teindre son vêtement en rappel de son sacrifice. Et finalement, la septième affirmation apparaît à la fin du verset 13, comme troisième titre du présent passage. Au verset 11, il est appelé « fidèle et véritable ». Au verset 12, il a un nom que personne ne connaît. Et ici, au verset 13, son nom est la parole de Dieu. Il se veut la révélation vivante de Dieu. Alors, fini les révélations, on a tout reçu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par, littéralement dans le texte, un fils. Et tout ce qu'il avait à nous dire est venu effectivement de ce fils-là. Si nous sommes de véritables croyants, si nous avons placé notre foi en Jésus, la Bible parle de nous au verset 14. Elle parle des armées qui sont dans le ciel, qui le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. C'est la cavalerie dont nous faisons partie, nous les croyants. Il est dit que de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer, et il les foulera. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ce ne sont pas des propos de demi-mesure hein, qui nous sont donnés ici. Ils mettent en lumière la gravité extrême du péché et en même temps l'incommensurable miséricorde de notre Dieu envers les siens. C'est la mission du Christ. La mission du Christ, c'est de juger le péché. Et il juge le péché. C'est décidé déjà dans son concile intra-trinitaire avant que le monde soit. Et ça se fait dans l'incarnation, dans l'ici et le maintenant. Il vient pour juger le péché. Le péché ne peut pas passer sans être jugé. Le péché va incommensurablement recevoir son jugement. Soit que le jugement est tombé sur lui à la croix, et pour porter notre péché, soit que ce jugement-là sera opéré par lui sur tous ceux qui ont refusé son règne. Et le verset 16 de conclure cette petite section avec un quatrième titre pour le Christ qui vient englober tous les autres, roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est toute une description que nous fournit ce texte. Oui, lorsque nous étions sur la Méditerranée, il y a deux semaines, en début de nuit, vous savez, sur la Méditerranée, il n'y a pas beaucoup de... les lumières qui éclairent les rues, là, il n'y a pas beaucoup de lampadaires hein, sur la Méditerranée. Alors, c'était une obscurité totale et absolue, et c'était en début de nuit, et subitement, il a commencé à avoir des éclairs de chaleur. C'était absolument magnifique. Tout était obscur à n'y rien voir, et soudainement, tout venait à la lumière par un seul jet d'éclair. C'est absolument magnifique. Et la pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est effectivement, le Seigneur va amener tout à la lumière. Et ça va se faire également en un instant comme cela. Imaginez la puissance que ça prend pour éclairer le ciel comme cela, avec une seule éclair. On en a parlé beaucoup, des puissances des éclairs. Ben, le Seigneur est très puissant. Et je pense que toutes les manifestations qu'il nous a données de sa puissance sont de grands encouragements pour les croyants qui ont mis leur espérance en lui, il n'y a pas de place ailleurs pour le mettre, et qui attendent son retour, qu'on veut bien prochain. Une manifestation de gloire et de majesté pour les croyants, mais un drame horrifiant pour les incrédules que de voir une telle démonstration de puissance. Ben, le texte qu'on vient de lire, vous savez, me fait penser à cet éclair-là. Quand on regarde brièvement, sommairement, comme on l'a fait, la description du roi Jésus, de toute sa gloire, il y a quelque chose, on ne reste pas indifférent, il y a quelque chose qui vient nous saisir de l'intérieur, on est appelé à l'adoration ou à la fuite. On est appelé à l'adoration, à l'émerveillement devant un roi si puissant. Et ça m'amène à mon deuxième point, le festin des oiseaux, versets 17 et 18. Nous avons dans ces deux versets-là, nous avons droit à la description d'un véritable carnage. Je pense que le terme s'emploie. Et ça sert de description à la victoire finale du Christ Jésus. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » C'est une très belle image du jugement dernier envers les incrédules. Il s'agit bien sûr de la fameuse bataille de l'Armageddon, voilà. La bataille d'Armageddon qu'on a vue au chapitre 16, où les puissances du monde s'assemblent pour combattre. Et on la retrouve également à la fin du chapitre 17, où la bête et ses alliés veulent combattre l'agneau et son armée, mais bien sûr l'agneau sera, et de loin, le grand vainqueur. Et ici, nous avons finalement une vue complète de la bataille, annoncé par cet ange qui convoque les oiseaux au festin. Le texte ne nous laisse pas dans le doute. C'est d'une clarté cristalline que l'ange n'a aucun doute sur l'issue de cette bataille-là. En fait, il ne s'agira même pas d'un véritable combat, comme en témoignent les versets 19 à 21, mais une bataille éclair qui ne mérite même pas de description. Nous retrouvons, et ça, c'est intéressant, dans ce chapitre 19, deux festins. Là, si on recule à notre dernier exposé de l'Apocalypse, on avait vu qu'il y avait un festin, et ici, nous en avons un deuxième. Au verset 9, nous avons le festin des noces d'agneau. C'est lui que nous avons vu lors de notre dernier message. L'ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Alors qu'ici, au verset 17, c'est le grand festin de Dieu. Ça a l'air joyeux. Ça a l'air festif. C'est festif, mais pour les vautours. C'est festif pour les charognards. Certainement pas pour tous ceux qui se font dévorer. Certainement pas pour tous les incrédules qui sont sous le jugement. Oui. C'est le grand festin de Dieu. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Et les invités au festin des noces d'agneau font bien sûr référence à tous ceux et celles qui ont investi leur foi en Christ Jésus et qui sont ainsi rachetés de leurs péchés par son sang. À l'opposé, les invités au grand festin de Dieu au verset 17 sont les oiseaux qui viennent festoyer en se délectant des ennemis de Dieu. Et tous les habitants de la terre, de tous les lieux, de toute époque, vont être partie prenante de l'un de ces deux festins-là. C'est un texte d'évangélisation, somme toute, que nous avons devant nous. Ce n'est pas sans nous rappeler ce que nous rapporte le proverbe 9, si vous vous souvenez bien, où nous retrouvons deux banquets. Ici, on retrouve deux repas. Au proverbe 9, nous retrouvons deux banquets. Le banquet de Dame Sagesse et le banquet de Dame Folie. Et ça va comme suit. Les versets 1 à 6 nous décrivent le banquet de Dame Sagesse. La sagesse, elle a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Elle a égorgé ses victimes, elle a mêlé son vin. Elle a dressé sa table, elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, « Que celui qui est stupide entre ici !» Et elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. » Qui est-ce qu'elle appelle Dame Sagesse à son banquet? Elle invite des stupides, il n'y a pas d'autre chose que ça sur la planète, voyez-vous. C'est ce que nous sommes comme pécheurs, des stupides. Alors, elle invite tous les pécheurs à venir à son banquet, à venir chercher cette sagesse-là qui est gracieusement offerte, qu'elle a minutieusement préparée, solidement établie sur cette colonne. À l'opposé, au verset 13 à 18, nous avons l'invitation de Dame Folie. La folie, nous est-il dit, est une femme bruyante. Hein, le monde fait du bruit aussi. Hein? La folie, c'est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin que celui qui est stupide entre ici. Et elle dit à celui qui est dépourvu de sens, « Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. » Après minuit, 2 heures du matin, hein, le pain du mystère est agréable, dit-elle, et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. C'est exactement le texte que nous retrouvons ici. Avec ces deux repas et avec ces deux groupes de personnes, finalement, qui assistent à un de ces deux banquets-là. Et c'est de cette même foulée, d'ailleurs, que se distinguent ceux qui ont la marque de la bête, qu'on voit au verset 20, ceux qui ont la marque de la bête font vraiment partie du jugement de Dieu, et ceux qui sont porteurs du sceau de Dieu, qu'on a vu bien auparavant au chapitre 9 et au verset 4, ceux qui ont le front marqué du sceau de Dieu. Et il y a ici ceux qui ont la marque de la bête. Il y a seulement deux voies. Il n'y a pas de neutralité. Je ne sais pas si j'ai fait un peu de philosophie, mais au 19e siècle, Søren Kierkegaard était un philosophe théologien populaire qui s'en prenait beaucoup aux autres philosophes, qui étaient là, n'est-ce pas, en train de faire des analyses, en train de faire toutes sortes d'études et de commencer à se prononcer sur tout ce qui se passait, comme de bons juges. Et Kierkegaard leur disait, « Vous avez tort, vous vous croyez sur la ligne d'à côté, mais sachez que vous êtes sur le terrain, que vous faites partie du jeu, vous aussi. Vous êtes partie prenante du jeu. Il n'y a pas de neutralité. On va être soit au festin des noces de l'agneau, soit au menu des charognards. Pardon. Refuser la grâce de Dieu, faire fi de sa bonté et de son amour, et de facto, vous vous placez au menu de ce carnage des oiseaux de proie. Et le verset 18 ne manque pas de nous rappeler que personne n'y échappe. Quel que soit son statut, quelle que soit son influence, on peut marcher la tête haute, le torse bombé, en croyant s'être assuré une sécurité, mais hors du Christ, il ne reste que le festin des oiseaux, au verset 17 et 18, rassembler les oiseaux et qu'ils viennent festoyer sur les cadavres de ces gens-là. L'Évangile, vous savez, c'est le grand niveleur. Pas la mort que la grande niveleuse. C'est l'Évangile que le grand niveleur des êtres humains qui nous rappelle que tous et chacun est en besoin de justification par la foi en Christ Jésus. C'est un message qu'on a tellement besoin de garder central. Dans ma lecture quotidienne, je suis rendu dans Galates. J'ai commencé à relire Galates. Vous savez, c'est un texte qui est dur, hein? Généralement, Paul commence ses épîtres, il est très, très gentil, il envoie ses salutations, ses gros bisous, je remercie Dieu, je prie pour vous. Là, il entre, hein? Il dit, j'en reviens pas où vous êtes rendus. Je ne peux pas concevoir que vous êtes en train de vous éloigner de l'Évangile que vous avez reçu. Oui. Et ça nous rappelle que c'est un danger même pour l'Église présente. On discute de beaucoup de choses, hein? Et là, vous allez dire que je suis obsédé. Mais j'aime bien les podcasts, mais il y en a trop, à mon humble avis. Et il se dit des choses là-dedans qui n'ont pas de pertinence, souvent de fois. On a besoin de revenir à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, dans sa simplicité. On est rendu tellement intello, on risque de se perdre là-dedans. C'est là où les Juifs étaient rendus quand Christ est venu. Ils l'ont manqué aussi. Extrêmement important de garder le caractère très central de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Merci au Seigneur pour le podcast. Merci à mon frère Pascal pour son excellent podcast. Ils ne sont pas tous de cette qualité-là, mais on s'entend que trop, c'est comme passé. Il y en a beaucoup. Enfin, c'est autre chose. Pour y l'effacer, là, si le cœur vous en dit. Quand on est rendu à 78 ans, on se sent libre de dire ce qu'on a envie de dire, vous savez. Et mon dernier point, le coup final du roi, les versets 19 à 21. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre, à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassemblèrent de leur chair. » Les images de cette dernière bataille apparaissent dans divers passages bibliques, mais le résultat est toujours le même. Je l'aurais certainement noté. Et ça nous rappelle le psaume 2. « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Par la simple parole de son décret, Dieu établit le règne de son Fils. Hein? » Le verset 9 nous dit, « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Et Jean nous décrit les effets immédiats de cette dernière bataille, une bataille dévastatrice, lors de la venue du Christ. On voit que lorsque le Seigneur apparaît finalement, le mal, d'aucune façon, ne peut survivre ne serait-ce qu'un seul instant. La bête et le faux prophète, ces deux grands partenaires du crime, deviennent encore partenaires, mais partenaires de l'enfer pour l'éternité, nous est-il rapporté. Ils sont pris tous les deux, partenaires, et dans l'enfer pour l'éternité, et au verset 20, le reste est dépeint, comme on l'a vu tantôt, comme de la nourriture à vautours et aux oiseaux, ce qui revient au même que pour ces deux bêtes-là. Et ce n'est qu'une image de plus de ce grand jugement à venir, bien-aimé. C'est comme si le Saint-Esprit inspirait ces horribles visions, l'une après l'autre, dans un but bien précis, pour en forcer la compréhension de cette réalité-là qui s'en vient. Nous y voyons un grand champ de bataille, un champ de bataille à l'infini, parsemé de millions de cadavres, où seul le mouvement notable est celui des oiseaux dévorant la chair. Ça nous parle de l'ampleur, ça nous parle de la rigueur, ça nous parle d'une absence de miséricorde dans le jugement. C'est la colère de Dieu qui se manifeste là-dedans. Il y a une destinée qui s'appelle l'enfer. Il y a une destinée qui s'appelle la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Il y a une destinée qui s'appelle l'étang ardent de feu et de soufre. Et c'est cette destinée qui est nôtre en raison du péché. Dès l'enfance, dès la naissance, on se dirige tout de go vers cet endroit-là en raison du péché. Selon la parole de Dieu, il n'existe que deux façons d'éviter ce destin tragique. La première consiste à vivre une vie de parfaite obéissance à Dieu, à ne jamais pécher dans le moindre degré, et à tout faire pour la gloire de Dieu. Combien ici sont qualifiés? Si quelqu'un avait levé la main, on aurait dit t'es cuit. Personne n'est qualifié pour cela. 1 Roi 8, 46 nous dit, « Il n'y a point d'homme qui ne pèche. » Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et c'est un verbe à l'aoriste, pas pour ceux qui ont fait un peu de grec. C'était réalisé dans le passé, voyez-vous. « Tous ont déjà péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est donc pas de ce côté-là qu'on doit chercher notre réconfort. Nous avons donc besoin d'une autre voie de salut, d'un sauveur qui nous délivre de la sainte justice de Dieu. Et ce sauveur, c'est le Fils de Dieu lui-même qui a vécu cette vie parfaite sur cette terre afin de pouvoir faire justice à son peuple nécessiteux. Quand on dit le Fils de Dieu, il faut bien préciser, il n'est pas simple à définir le Fils de Dieu, hein? la deuxième personne de la Trinité, mais en même temps, c'est un homme aussi. C'est l'être théanthropique qui était les deux en même temps. Jésus était un homme sans le péché, mais avec la même fragilité physique et émotive que nous avons. Il faut réfléchir à tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a expérimenté dans son sacrifice vicarial pour nous assurer le salut à notre Dieu. Sa mort expiatoire assure aux croyants le pardon de ses fautes. Bien-aimés, que cette réalité dépeinte en images aussi saisissantes puisse nous donner d'approfondir notre appréciation et la signification et le bien fondé de nos vues au quotidien, aussi banales puissent-elles paraître. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons, tout ce que nous projetons, c'est pour notre Dieu. Nous sommes siens, nous lui appartenons, c'est pour lui et lui seul. Que ce puisse également accroître notre fidélité dans l'obéissance à notre souverain roi. Peu importe le moment, peu importe le lieu, peu importe la situation. Et plus important encore, que ça puisse attiser en nous une attente. Une attente pour notre roi qui vient et qui règne sur nous. Je disais hier, Ézéchias, n'est-ce pas, que tu es sur le point de mourir, et catastrophe des catastrophes, il ne veut pas mourir. On peut le comprendre, leur compréhension du séjour des morts et la réalité du séjour des morts dans l'Ancien Testament était bien différente de la réalité depuis que le Christ est ressuscité. Le Seigneur, dans sa bonté, lui ajoute 15 ans. Je ne sais pas si c'est votre prière, ce n'est pas la mienne. Que ce qu'on vient de voir, que ce qui devrait nous exciter littéralement, nous motiver, nous titiller au plus haut point, attiser en nous une attente pour notre roi qui vient et qui règne déjà sur nous. Puissions-nous être de ceux auxquels Paul fait mention dans 2 Timothée 4:8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. » Est-ce qu'il est en train de faire une crise, taper des mains, taper du pied, sauter au plafond, je ne vais pas mourir? Non! Il sait que la couronne lui est réservée. Elle a été payée un très grand prix. Elle l'attend, elle lui est réservée au ciel. Pour lui-même, qui est également réservé par le Christ pour cette couronne-là. Vous voyez, c'est le jour où tous les martyrs de toute époque de l'Église. C'est le jour où les Charlie Kirk, c'est le jour où les Woody Bockham, c'est le jour où tous ceux et celles qui ont investi leur foi en Dieu pour le glorifier recevront publiquement leur couronne et festoieront au festin des noces de l'agneau. Amen. Seigneur notre Dieu, devant ce texte qui nous révèle à la mitraille en quelque sorte toutes ces caractéristiques de la gloire de Dieu, le meilleur discours c'est celui qui ne parle pas, c'est le silence. Quel sauveur émerveillant nous avons. Et quand nous est décrit également au Seigneur la finalité de son jugement, que nous croyons proche d'ailleurs, selon ce que ta parole nous enseigne, nous voulons vraiment te louer, t'adorer, élever ton beau nom. Nous voulons vraiment te demander d'augmenter encore en nous la foi, la consécration et le désir de marcher dans tes voies et de t'obéir. Te remercier pour le privilège de cette grande révélation que tu as faite à nos cœurs. Parce que si nous sommes tiens, ô Dieu, c'est à cause de toi. Pourquoi est-ce que nous avons cru? Parce que tu es mort pour notre incrédulité. Et nous avons pu venir à toi. Merci pour cette révélation qui dépasse à ce que nous étions, qui dépasse notre capacité antérieure et qui nous rend enfants de Dieu pour toujours. Donne-nous, Seigneur, de persévérer dans nos voies. Donne-nous, selon ce que nous sommes, dans nos faiblesses, dans nos chutes, dans nos combats, dans nos luttes, dans nos victoires, de toujours chercher à avoir l'avancement de ton règne. Donne-nous également de parler aux autres de cette espérance qui nous anime. Nous sommes les seuls à avoir une espérance. Nous vivons dans un monde désespéré, ô Dieu. Nous sommes les seuls à détenir cette espérance éternelle, qu'on puisse également la partager, qu'on puisse la proclamer, et que tu puisses continuer d'amener des âmes à toi, à ta plus grande gloire, dans la personne du Christ Jésus. Amen.